Maître Bouliane, bon matin.
Bon matin.
C'est habituellement c'est en fait en fin de semaine, puis la fin de semaine d'après, soit deux grosses ou deux longs week-ends. Mais le fait que ce soit coupé pour les fêtes nationales, on s'attend-tu à ce que ça brasse autant que d'habitude?
Ben, peut-être que tant mieux. De toute façon, avec le COVID, certaines restrictions, il y a très peu d'événements qui sont organisés. Donc, peut-être que je dis tant mieux si c'est en milieu de semaine. Là, les gens auront peut-être moins le cœur à la fête, soit dans le contexte, mais du fait aussi, comme je l'ai dit, qu'il n'y a pas de rassemblement public, le public qui sont organisés ou des spectacles devant public, etc. Ouais. Donc, j'ai peut-être l'impression qu'effectivement, ça va fêter moins que d'habitude.
On avait eu une espèce de break d'alcool au volant durant la période de confinement. J'imagine que c'est pas mal reparti en grand.
Oh oui, c'est fini les breaks dans tous les sens du terme en matière judiciaire. Là. Je vous le dis, tous ceux qui se sont pas fait arrêter durant le confinement, c'est maintenant. On est complètement débordés, les services policiers aussi. Il y avait des opérations antidrogue de toute façon qui avaient été un peu retardées. Mm-hmm. Et tout ça là est repris bon train. Il y a eu plusieurs arrestations dans les dernières semaines, mais également en matière de facultés affaiblies. Malheureusement, le beau temps amène souvent les gens à avoir soif et malheureusement, des mauvaises décisions qui en découlent. Et effectivement, il y a une recul d'essence des dossiers de faculté affaiblie.
Bon, avant de parler de ce qu'on peut faire et pas aujourd'hui en termes de rassemblement, il y a un dossier particulier qui se passe au nord de Montréal. Il y a un homme qui est accusé d'avoir immolé, littéralement mis en feu sa conjointe avec de l'essence puis un briquet devant ses enfants puis sa belle-mère.
Effectivement. Ça s'est passé en août dernier dans le quartier Saint-Sauveur, mais je pense que c'est à Québec, Dominique.
Ah ouais, possiblement.
Pas te relancer, ça change ouais. Absolument rien au dossier. Là.
Saint-Sauveur, effectivement, Saint-Sauveur, ça porte à confusion.
Et dossier très particulier, des accusations très graves. On parle de voies de fait graves et on parle de tentative de meurtre. Hein? La différence entre les deux, c'est que la tentative de meurtre, lui, va être un crime d'intention spécifique, dont le ministère public devra démontrer qu'il avait clairement l'intention de la tuer, et heureusement, ça n'était pas le cas. Or que dans un crime de voie de fait, c'est un crime d'intention générale. Donc, peu importe votre intention à la base, si vous commettez ce geste-là de façon volontaire, vous allez être pris avec les conséquences de votre geste, même si vous n'avez pas voulu ces conséquences-là. Or que sur le meurtre, entre autres, et là, dans ce cas-ci, la tentative de meurtre, on devra démontrer que c'était votre intention. Et c'est beaucoup là-dessus que je pense qu'il va y avoir un débat. Il a fait l'option d'être jugé devant juge et jury. Et il avait le choix de demander, de façon systématique, lorsqu'on va devant juge et jury, normalement, il y a une enquête préliminaire, mais on peut y renoncer. Donc, hier, c'était ce que son avocat a fait, parce qu'il y avait des déclarations de vidéo de la victime, etc., et son avocat ne voyait pas l'utilité de faire l'enquête préliminaire. L'enquête préliminaire, ça peut soit... Si on prétend que le ministère public n'a pas tous les éléments de preuve, donc il pourrait y avoir que vous soyez libéré, donc finalement que le juge dise ben j'ai pas une étincelle de preuve sur chacun des éléments constitutifs de ces infractions-là, donc vous pourriez être libéré à l'enquête préliminaire, mais ça sert généralement surtout de tester la preuve du ministère public, parce que souvent on a ça soit sur vidéo, mais généralement c'est sur papier. Sur papier, ça peut paraître solide comme preuve ou faible comme preuve, mais que les gens témoignent beaucoup mieux ou beaucoup moins bien. Mmh. Bon, jusqu'à quel point si on veut évaluer la preuve du dossier, donc c'est très important. Dans ce cas-ci, son avocat ne voyait pas l'utilité, donc il avait dit à la juge, on va se rendre directement à juge et jury, et il semble avoir fait une face, l'accusé, dans la salle, là, à tout le moins pour que ça interpelle la juge et que la juge dise ben retournez donc parler à votre client, il semble pas d'accord avec vous. Et effectivement, finalement, ils ont demandé à avoir l'enquête préliminaire. Et là, le ministère public a dit ben nous, notre victime est encore gravement blessée, on veut pas la faire déplacer deux fois, c'est-à-dire une fois à l'enquête préliminaire et une fois au procès. Il y a une disposition dans le code criminel qui permet de déposer soit sa déclaration écrite ou dans ce cas-ci, dans sa déclaration vidéo. C'est possible de le faire. Donc, pour valoir témoignage, le juge va regarder à la lueur de la déclaration vidéo est-ce que j'ai un élément, un étincelle de preuve sur chacun des éléments qui me permet de citer l'accusé au procès. Par contre, si l'accusé le demande, à l'occurrence son avocat, il peut aussi pouvoir contre-interroger la victime. Donc, c'est beau de déposer sa déclaration, mais on veut pouvoir lui poser des questions, faire un contre-interrogatoire dans le but de préparer notre procès. Et c'est là qu'il y a eu débat, parce que la juge devra déterminer, là, si veut, les pour et les contre, les effets préjudiciables de part et d'autre pour la défense pleine et entière de l'accusé, mais dans les circonstances de la dame est blessée, etc. C'est une décision qui aura lieu aujourd'hui.
Quand même particulier, en gros, le gars, donc le présumé agresseur, qui ne nie pas la trame factuelle, là, qui reconnaît, je pense, déjà de l'avoir mis en feu volontairement, il veut que son avocat puisse l'interroger en enquête préliminaire pour qu'il y ait une vraie version des faits et que ce ne soit pas en vidéo. Donc, il veut vraiment forcer sa présence.
Effectivement. Et c'est sûr, ce qui entoure les événements, c'est sur la tentative de meurtre. Là. Comme je l'expliquais là, sur le dossier de votre fait grave, de ce qu'on comprend que ce dossier-là, malgré la présomption d'innocence, il y a des témoins. Ses enfants ont été témoins de la scène. Sa belle-mère a été témoin de la scène.
C'est pas sympathique, hein?
Ah non, c'est incroyable, là. C'est incroyable. Il admet l'avoir mis en feu. Maintenant, tu sais, on envoie des vidéos sur YouTube, là, je change un peu de registre, là, mais on envoie des vidéos de gens avec des amboukas, là, ça lance un shooter à un autre, puis ils le mettent en feu. Et ces gens-là n'avaient pas nécessairement l'intention que ça dégénère au point même de causer la mort. Donc lui, sûrement sur le chef de tentative de meurtre, va dire oui. C'est vrai, je l'ai mis en feu, j'étais en colère, mais je pensais que ça allait faire un petit feu. Mais il va être coupable, il va avoir une sentence, évidemment, sur cette partie-là. Là, je suis pas en train de banaliser, mais clairement, lui, il va dire, je n'avais pas l'intention de la tuer, pas du tout, ça a dégénéré. Je suis prêt à plaider coupable sur le voie de fait puis sur les conséquences sur elle, mais je n'ai jamais eu l'intention de la tuer. Et c'est au ministère public de prouver cette intention-là hors de tout doute raisonnable. Et donc, dans les circonstances de comment il l'a mis en feu, est-ce que le feu, finalement, c'est un petit feu qui, finalement, s'est embrasé puis est devenu hors de contrôle, puis que la situation, comme je le disais, a dégénéré, ou clairement le ministère public prétend non, c'est de toute évidence, il avait soit l'intention de causer la mort ou soit l'intention de lui causer des blessures qui sont de nature à causer la mort, sans se soucier que la mort en résulte. Ce sera tout le débat et c'est pour ça que dans la préparation du procès, il veut pouvoir la contre-interroger sur, si on veut, le début d'incendie, là, pour essayer de voir au niveau de l'intention qu'est-ce que le juge ou le jury pourra trancher à ce moment-là.
Ouais, on s'entend que... Écoute, devant jury, je suis pas sûr que c'est sa meilleure idée. C'est peut-être une bonne nouvelle dans les circonstances. Tu sais, quand tu mets le feu à ton ex devant sa mère et ses enfants, on s'entend que le jury sera pas très, très sympathique. Puis en plus, tu forces le ministère à la présenter en cours alors qu'elle est encore à l'hôpital. Ça fait un an qu'elle est à l'hôpital. Là.
Oui, ça, le jury ne sera pas... C'est pas théoriquement supposé être au fait de cette situation-là qui va avoir lieu avant la constitution du jury. Mais effectivement, de prime abord, là, la trame factuelle, l'admission de lui-même qui va dire « Oui, je l'ai mis en feu, mais écoutez, j'avais pas ces intentions-là. Ouais. » Devant le jury, c'est quand même un dossier qui part à deux prises.
Ah, absolument. Bon, parlons de rassemblement. Ce soir, les gens vont peut-être vouloir se réunir parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire, on s'entend. Pas grand-chose dans le ciel à soir devient réalité. Il n'y aura pas de feu d'artifice, il n'y aura pas de spectacle à grand déploiement. Qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui ne l'est pas? Parce que j'ai l'impression que depuis lundi, l'histoire des rassemblements de 50 personnes, là, ça a semé un flou dans la tête du monde.
Oui, ça, oubliez ça. Ça, on a semé la confusion là, à travers certaines directives dans les médias, des choses comme ça. D'ailleurs, ça se retrouve même pas au décret. Là. Je ne sais pas comment ils vont l'appliquer, mais sur la réouverture des salles de cinéma, ça disait tout simplement qu'ils peuvent réouvrir ou rouvrir. Là. Mais bon, pour les gens, pour ce qui concerne les rassemblements, là, on va le dire privé, le seul... critère qui se retrouve au décret, c'est 10 personnes. 10 personnes et moins à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est ça qui fait en sorte que vous êtes à l'abri de tout constat d'infraction. Sur un terrain public, dans un endroit public, il pourrait y avoir un nombre illimité de personnes qui se rassemblent si tout ce beau monde est à 2 mètres. Mmh. Mais sur un terrain privé, on n'a pas ce 2 mètres-là, on n'a pas l'histoire de 3 foyers. C'est 10 personnes maximum qui est prévu au décret. C'est la seule règle, si on veut, qui se retrouve toujours présentement là dans les différents décrets arrêtés concernant les rassemblements privés.
Fait que là, les 50, oubliez ça même dehors. Là.
Oubliez ça. Ça, c'était là pour les salles de cinéma, les salles de spectacle. On pouvait, c'est dans le fond, c'est que il n'y aurait pas un nombre limité de places si tout le monde est à 2 mètres, mais si on va être à moins de 2 mètres, donc là, on parlait de 1,5 mètres, ben on pourrait limiter ça à 50 personnes. Puis bientôt, à l'extérieur, on va limiter à 250 personnes, mais c'est des annonces qui sont faites, on dirait, au fur et à mesure, on dirait que tous les jours, on veut faire une annonce, puis on a bien apprécié le fait qu'on était devant les médias, là, parce que souvent, on fait des annonces avant même que le décret sorte. Là, les gens savent plus trop à quoi s'attendre. On attend le décret qui sort 2-3 jours avant la mise en vigueur, puis on se rend compte que c'est plus au décret. Puis là, les gens, ben moi, j'avais vu 50 personnes. J'ai même vu 250 personnes. Puis effectivement, ça mêle beaucoup les gens. Puis ça, c'est pour, je vous dirais, des entreprises. Là. Donc, le 50 personnes visait des entreprises, salles de spectacle, cinéma, etc., comme je le disais. Pour le monsieur, madame, tout le monde, là, les rassemblements privés, intérieur, extérieur, c'est 10 personnes maximum. C'est ça qui se retrouve au décret. Et c'est la seule norme, si on veut, qui devrait permettre aux gens de se guider. Évidemment, il y a aussi l'histoire des feux, là. Pas de feu à ciel ouvert. Vous devez, si vous voulez faire un feu de la Saint-Jean, ce ne sera pas les gros feux comme on voyait dans les années 90 à Saint-Gédéon. Là, on va être très, très loin des Saint-Jean de l'époque parce que ça prend un pare-étincelle. Et pour faire des feux d'artifice, ça vous prend un permis de Ville-Saint-Denis.
Hey, en 96, 97, 98, c'était quoi, c'est un pare-étincelle? On connaissait pas ça. C'est un 2 par 4 de plus à brûler.
Mais tous les jeunes de la région se vidaient pour se rendre à Saint-Gédéon. Ça, des semaines à l'avance. C'était l'événement de l'année. Maintenant, tu vois, je pense que tu viens de me rappeler que c'était la Saint-Jean ce soir.
Ouais, ben c'est ça. Là. Puis je sais que sur le tour du lac Saint-Jean, entre autres, à Belley, il y avait beaucoup de débris qui avaient été amassés à plage. Puis ils font toujours des espèces d'amoncellements sur lesquels, évidemment, loin quand même du bois, puis tu peux mettre le feu là-dedans éventuellement pour la Saint-Jean. Mais là, cette année, les amoncellements sont là, mais il n'y aura pas de feu.
On va oublier ça, puis effectivement, au lac Saint-Jean, je pense qu'ils ont pas trop le cœur à faire des feux de joie avec les feux au nord du lac Saint-Jean présentement.
Non, effectivement. Maître Bouliane, merci beaucoup.
Ça fait plaisir. Bonne fin de journée, puis bonne Saint-Jean malgré tout.
Bonne Saint-Jean.